présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Merveilleux Monsieur Bébé, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Êtes-vous d'accord? Margaret, humiliée, lui demande et pourquoi? Est-ce qu'elle ne me laisse pas l'administration des biens qui me reviennent? Le notaire lui dit c'est pour votre bien. Il faut savoir s'occuper des affaires. Et votre mère pense que vous n'êtes pas capable de le faire. Margaret lui demande « Et si je refuse, que je veuille m'occuper de mes affaires moi-même ?» Le notaire lui dit « Alors, vous serez obligé de faire appel à un avocat et prouver que vous êtes capable de prendre des décisions vous-même, que vous êtes une personne responsable de vos actes. Cela risquerait d'être long. Votre mère a embauché un détective pour préparer un dossier sur vous, votre façon de vivre. Ils ont enquêté chez vos amis, ont appris vos coups de tête, la jeune personne à qui vit, avec qui vous vivez, presque un enfant, et qui vit à vos crochets. On pourrait conclure que vous n'êtes pas dans votre état normal et vous mettre sous tutelle. Marguerite, furieuse, lui dit « Mais c'est conscient que je fais ça. Je ne suis pas folle. C'est la personne qui vit avec moi est un homme d'affaires. » Le terre lui dit « Votre mère, avec son agent, peut tout prouver. » Margaret lui dit, elle qui est folle, une hystérique, qui voit tout de travers. C'est elle qui devrait être enfermée. Le terre lui dit, elle est plus riche que vous, donc elle peut tout contre vous et voit rien contre elle. Je vous conseille, c'est de signer, si vous êtes d'accord, pour l'héritage. Cela vous fera très bonne somme malgré tout. Et qui sait, plus tard, votre mère en vieillissant peut changer d'avis ou devenir elle-même incapable de s'occuper d'elle-même. Et vous serez obligé de vous en occuper. Alors ce sera elle qui sera sous tutelle. Margaret lui dit, je vais réfléchir. Bien, comme vous voudrez. Elle se lève. Au revoir, maître. Au revoir, mademoiselle. Elle l'a quitté. Lorsqu'elle revoit François, au salon de l'hôtel, elle lui dit, ma mère me met carrément sous tutelle. Je n'ai droit à l'héritage qu'au bénéfice des affaires de mon père, moins 10%. Elle ne me laissera de sa fortune que 50%. Parce que je ne suis pas une personne capable de... vivre sans être surveillée. Je dois être mis sous tutelle si je refuse son offre. Elle a embauché un détective qui a fait un dossier pour démontrer que je ne suis pas censé. Des personnes ont parlé sur nous. On n'a pas le droit de vivre comme ça. Je l'entends. C'est moi qui suis folle et ma mère censée. François lui dit, tu dois faire appel. Elle lui dit, il paraît que ça peut durer des années. Et puis que ma mère est très riche, elle a le pouvoir de me traiter de folle et de s'accaparer de mes affaires, de mes biens à jamais. François lui dit, que faire? Elle lui dit, il n'y a que deux choses à faire, ou j'accepte l'offre, elle me laisse en paix, ou j'attends qu'elle devienne gaga, et là c'est moi qui m'occupe d'elle. Elle est sous ma tutelle, mais ça risque, c'est d'attendre longtemps. François lui dit, à moins qu'elle décède, elle lui dit, je ne souhaite pas la mort de ma mère, ni de personne d'ailleurs. Que décides-tu? Elle lui répond, je vais aller la voir, lui faire entendre raison. Et si elle refuse, eh bien, ils seront bien obligés, c'est d'accepter son œuvre. Que veux-tu? Il lui dit, il perdra gros. Elle lui dit, tant pis, ils auront assez. Et puis toi, ton affaire, ça démarre, tu reçois beaucoup de gens pour ça. Et puis, nous vivons à Paris. D'abord, c'est mieux. Tu vas la voir quand? Le plus vite possible. François lui dit, tâche de la convaincre François veut que Margaret soit le plus riche possible. Parce que plus elle est riche, plus il l'est, lui. Elle l'embrasse sur la joue et lui dit, ne fais pas de soucis. J'ai ce qu'il faut pour toi. L'appartement est en train de finir. On va bientôt être chez nous. Et puis, on pourra peut-être se marier. Une fois mariés, les choses s'arrangeront. Les gens seront de notre côté. Plus tard, peut-être que tout ira bien. Il ne lui dit rien. Lui, le mariage, ça ne lui dit rien. Et puis, avec une femme qui est beaucoup plus vieille que lui. Margaret décide d'aller voir sa mère et s'habiller en tailleur noir. Elle a pris un taxi. Le taxi s'est arrêté devant la maison. Et seule à l'interphone. Allô? Elle fait, c'est moi, Margaret. Oui. Elle se dit que sa mère a dû donner des ordres et dire que sa fille est une mauvaise fille, qui la dévalise et vit une vie dépravée avec un Français qui fait de la couture, etc. Elle dit vexée, je veux voir ma mère. Je vais voir madame. Elle se dit, oui, c'est ça, va voir. Elle attend un peu. Oui, madame, je veux bien vous recevoir. Entrez. Elle ouvre la porte. Bonjour. Bonjour, madame. Elle entre. La bonne ferme la porte. Elle lui dit, si madame veut bien me suivre, elle suit la bonne. Qui l'amène au salon du premier étage. Ça fait tout de même quelque chose d'être traité comme une inconnue dans cette maison. Entrez! Elle entre. Vous pouvez entrer. Elle entre. La bonne referme derrière elle. Sa mère est assise dans un fauteuil. Bonjour, mère. Bonjour, ma fille. Elle s'approche de sa mère. Se penche pour l'embrasser. Sa mère ne lui rend pas son baiser. Elle lui demande, qu'est-ce que tu veux ? Margaret lui dit, je suis venue te parler. La mère lui dit, assieds-toi et parle. Elle s'assoit en face de sa mère dans un fauteuil. Sa mère lui demande, tu es en deuil? Non, mère, je croyais que tu étais déjà en deuil de ta pauvre mère ruinée. Margaret lui dit, mère, ne commencez pas. Je suis venu vous parler de ma part d'héritage. Et alors, tu l'as? Oui, mais je ne suis pas propriétaire. Je n'ai que le bénéfice des affaires, la mère dit. Et puis quoi encore? Ça ne te suffit pas? C'est moi qui fais tout et c'est toi qui manges les marrons. La fille lui dit, ce... Oui, mais il y a un côté humiliant, et puis cette histoire de me faire une enquête sur moi, voir mes amis, et tout ça, la mère lui dit, cela prouve que je m'inquiète de ta santé, mais je ne suis pas malade. Ça, c'est toi qui le dis. Mais je vois que tu n'es pas dans ton état normal. Comment ça? En vivant d'une façon dépravée avec ce garçon, si on peut appeler ça un garçon. Marguerite lui dit, je ne fais rien de mal, et puis j'ai 40 ans, je peux bien avoir le droit d'avoir un ami, non? Tu appelles ça un ami? Depuis que tu le vois, tu changes, tu déshérites ta pauvre mère, tu la laisses seule, tu te dépraves. Marguerite lui dit, j'ai rien fait, c'est toi qui m'a fait partir d'ici. C'est pas moi qui t'ai fait partir d'ici. Je ne pouvais pas faire autrement que de te faire partir vu la vie que tu menais. Je suis une femme honnête, moi. La fille lui dit, certainement, peut-être même un peu trop. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que j'ai des amants? Une vie dépravée, comme toi, avec des jeunes, plus jeunes que moi. Ma fille me traite comme une prostituée. Au secours! Au secours! Au secours! Marguerite Sorel se lève apeurée et furieuse. Arrêtez, mère! Au secours! Au secours! La porte s'ouvre. Trois domestiques accourent. Deux hommes et la bonne. La mère dit, elle a voulu me voler et me tuer. Oh. Vous êtes témoin. Vous êtes témoin, n'est pas normal. Elle m'a traité de prostituée. Je n'ai jamais eu d'amant. Faites-la partir. Elle a voulu me tuer. C'est une sale fille. Menteuse. Et méchante, qui a un garçon. Oui, un garçon. Elle a voulu me tuer. Mes bagues, au secours, au secours.
Marguerite voit les domestiques, la regarde, dit, mais c'est faux, la mère dit.
Elle m'a parlé d'héritage. Oui, à moi. Elle veut hériter de moi. Et pour hériter d'une personne, il faut qu'elle meure. Elle a voulu me tuer, moi, sa mère. Moi qui l'ai élevée durant 40 ans. Je me suis occupée d'elle durant 40 ans. Est-ce qu'on s'occupe d'une enfant 40 ans? C'est bien la preuve qu'elle est folle, alliée. Oui, folle et incapable de se débrouiller elle-même. Elle est sous ma tutelle, une folle, j'ai une folle dangereuse. Regardez ses yeux, des yeux de folle. Les domestiques la regardent. Marguerite fait des yeux terrifiés, elle ne sait plus. Elle a voulu me tuer. Au secours, je meurs. Mes bijoux, je meurs. Quelle honte. Les domestiques s'approchent.
Marguerite recule. Ils sont menaçants.
La mère dit, je m'évanouis, le médecin.
La bonne demande, faut-il appeler la police?
Qu'elle parte. Ou madame est trop bonne.
Marguerite recule devant ces deux hommes menaçants. Et sors de la maison.
Elle se trouve dehors, ne sachant quoi penser, la tête en feu.
Vois, un taxi qui passe.
Il fait signe, il s'arrête. Elle entre dedans.
La bonne accompagne sa mère qui est à moitié évanouie. Elle la monte à sa chambre. Elle la couche.
La bonne lui dit, votre fille est détestable. Venir vous voir chez vous pour essayer de vous tuer.
Elle lui dit, vous êtes témoin, n'est-ce pas?
Oui, madame.
Faites venir mon médecin.
Bien, madame.
Et elle se retire.
La bonne retrouve au rez-de-chaussée les deux hommes, dont le chauffeur Armand, qui lui dit
« Nous l'avons fait partir, cette garce. Si elle revient, j'appelle la police. Quelle fille! Elle doit se prostituer ou prostituer son mec. On ne vit pas à l'hôtel pour rien. »
Plus tard,
on frappe à la porte de la chambre de la pauvre mère. Elle dit faiblement, entrez. La bonne lui dit, c'est docteur, madame.
Elle fait, à quoi bon? À quoi bon? Je me meurs. Le prêtre aurait été sûrement mieux. Faites-le entrer.
Bien, madame. Et le docteur entre. Il s'approche du lit et lui dit, madame, il paraît que vous avez eu une grande dispute avec votre fille.
Il lui dit, ma fille a voulu me tuer. Elle veut hériter de moi.
Le médecin lui dit, c'est bien triste tout ça. Elle vous a, comment dire, touché en voulant vous tuer.
Elle n'a pas pu me toucher. ni me voler, j'ai crié avant. »
Il lui dit, « Je vais vous ausculter pour voir. »
Elle dit, « Oh, je suis bien lasse, bien mal. »
Il ausculte et lui dit, « Vous n'avez rien de physique. Le corps est très bon, tout va bien. »
« Comment ça ? Tout va bien. Ma fille a voulu me tuer. »
Il lui dit, « Je veux dire, physiquement, tout va bien. Pour ce qui est du reste, hélas, je ne peux rien. Je suis ennuyé simplement de ne plus voir votre fille parce que vous entendiez plus. »
Elle lui dit, « Vous voulez dire que c'est de ma faute si ma fille a voulu me tuer ?»
Il lui dit, « Mais pas du tout. »
Elle lui dit, « J'y suis pas rien. Si elle veut me tuer, si elle vit une vie de débauche et qu'elle a besoin d'argent, c'est pour ça qu'elle veut me tuer. Je suis une bonne mère. Je l'ai tout de même élevée durant 40 ans. »
Il lui fait, « Oui, bien sûr.
Alors, docteur, est-ce que vous êtes avec moi ou vous êtes de son côté ? Si vous êtes avec moi, je dois être malade. »
Il lui dit, « À votre service. »
Il fait, « C'est bien, mes domestiques aussi sont avec moi. »
Pendant ce temps, elle a tout raconté à François, la pauvre Margaret, elle a sûrement tout perdu. Il lui dit, « Laisse tomber, nous serons très bien tous les deux, ne t'occupe plus de ta mère. Et puis, tu as moi t'occuper, je suis ton bébé, non ?»
Il l'embrasse sur la joue,
elle lui dit, « Oui ?» Et nous avons l'appartement à aménager. Notre nid d'amour, non ?
Elle lui fait, tu as raison. Tu es l'avenir, ma mère c'est le passé.
Un passé bien fini. Quand je pense à la vie qu'elle m'a fait mener,
il lui dit, n'y pense plus.
Et il ne parle plus de tout ça. Pas de nouvelles de la mère.
François lui dit, écris au notaire pour lui dire que tu acceptes tout ce qu'elle te propose.
Elle lui dit, tu as raison.
Il lui dit, et puis s'il lui arrivait quelque chose comme ça, on ne penserait pas à t'accuser.
Elle lui demande, mais qu'est-ce qui pourrait lui arriver ?
Il lui dit, je sais pas.
Un accident, la dévaliser, un crime, on ne sait jamais. Tu sais, quand on est riche,
l'appartement est prêt.
Il lui dit, je garde tout de même la suite dans l'hôtel. C'est bien pour recevoir les gens pour mon affaire. Il est vrai que depuis cette dispute, que la mère a dû dire à tout le monde, les domestiques aussi, et ceci décrit d'une façon roman 19e genre, les mystères de Paris ou de New York, les gens curieux veulent voir le couple meurtrier et voleur. C'est plus Bonnie and Clyde, mais c'est mieux, c'est les amants meurtriers. Donc, on va rendre visite à François, soi-disant pour son affaire. Mais les femmes dès qu'elles le voient sont prises par lui, par sa beauté, son charme, etc.
et elle le quitte, conquise par lui, et se disent que la belle-mère est folle, et que sa fille et que François ont raison de vouloir la tuer. Elle lui donne un bon chèque pour son affaire. Elles sont d'abord séduites par lui, comme les femmes qui sont attirées par les criminels, comme celles qui vont voir les procès des grands criminels et tombent amoureuses d'eux, comme Landau, etc. Et les femmes qui trempent leurs mouchoirs dans le sang des guillotinés. Mais dès qu'elles le voient, elles en oublient tout, séduites par lui, par son côté bébé. Elles ont envie de le pouponner, de jouer au baigneur avec lui. Lui, François, se laisse faire. Il laisse rêver les femmes. Certaines vont jusqu'à même faire des propositions amoureuses. Lui fait celui qui ne comprend pas. Bien entendu, ils sont toujours invités. Le couple le plus scandaleux du moment. François séduit, Margaret est jalousée. Pendant que François reçoit ses dames, Margaret meuble son appartement. Elle fait venir des entrepreneurs, veut un décor bien de bon goût anglais. Un décorateur l'aide, c'est un tapissier. Enfin, l'appartement est prêt, ils peuvent aménager et être heureuse. François gêné. Toute pétillante, elle lui montre ce qu'elle a fait. Lui dit, c'est mon premier chez moi, ça te plaît? Il lui dit, oui, bien beaucoup. Elle l'embrasse sur la joue. Elle lui dit, nous pouvons y habiter la semaine prochaine, si tu veux. Il lui dit, si tu veux. Elle lui fait, t'as pas l'air de te faire plaisir. Il lui dit, si, mais c'est la surprise. Un chez moi, ça fait si longtemps. J'ai passé mon enfance en pension et ma jeunesse dans les hôtels jusqu'à maintenant. Elle lui fait, oh, mon pauvre bébé, mais comme tu as dû être malheureux. Elle l'embrasse sur la joue et lui dit, tu verras, nous serons très heureux. Nous nous marierons, si tu veux, le mois prochain, en toute intimité. Regarde, et lui dit, je te trouve tout drôle. Elle lui dit, c'est l'émotion. Elle lui dit, je comprends, mon pauvre chéri. Elle l'embrasse sur la joue. Tu verras, tout ira bien. Et puis nous avons des amis qui nous aiment beaucoup. Lui ne se voit pas dans le rôle, dans ce rôle-là, le rôle de l'amant, de la fille indigne. Et puis, un monsieur bébé marié, ça ne se fait pas. Plus les jours passent, et plus plus il est triste et sa compagne est heureuse. Il se dit que tout ça, c'est de la faute de cette vieille folle. Sans elle, il verrait Margaret sans plus. Maintenant, il est coincé. Il se dit qu'il pourrait quitter l'Amérique sans rien dire. Un matin, il téléphone seul dans le salon de la mère de Margaret. La bonne répond.
Allô, oui. Bonjour madame, je suis le secrétaire du notaire de madame Holt. J'aimerais lui parler. C'est urgent.
Bien, je vais voir si madame peut vous parler.
Le combinet et sort du salon. Montez à l'étage. Frappe à la porte de la chambre de madame.
Entrez.
Elle entre. La mère est assise à sa coiffeuse à faire son maquillage.
Que se passe-t-il?
La bonne lui dit.
Eh madame, c'est qu'on vous demande au téléphone. C'est votre notaire. Ça semble très urgent.
Que veut-il?
Elle lui dit.
Il me l'a pas dit.
Elle lui dit.
Bien, je descends.
La bonne se retire. La mère termine de se maquiller et finit de s'habiller. Elle porte un tailleur noir. Elle se dit. C'est peut-être ma fille qui veut me faire du souci. Sort de sa chambre pour aller au salon. Au salon, elle prend le combiné. Et dit,
allô, qu'est-ce qu'il y a encore?
La voix lui dit,
bonjour madame, je suis le secrétaire de votre notaire et il aimerait si vous rencontrez. Il y a une chose urgente à vous dire.
Elle lui fait,
le sujet de ma fille?
Je ne sais pas madame.
Elle soupire et lui dit,
il ne peut pas venir.
Non madame, c'est confidentiel. Et veut vous voir dans un endroit neutre, vous comprenez? Il ne veut pas que l'on sache qu'il est de votre côté.
Elle lui fait, je comprends. Alors où?
Il lui dit, je vais vous donner une adresse. Vous avez quelque chose pour écrire?
Elle prend un carnet, qui est près du téléphone et un stylo.
Je vous écoute.
Il lui donne l'adresse.
Et je dois y être quand?
Disons cet après-midi à 15h, précise.
Bien, j'y serai. Au revoir, monsieur.
Au revoir, madame. Elle se dit,
encore des complications avec ma fille.
Et elle sort du salon. Trouve la bonne dans le couloir et lui dit
« J'ai des ennuis avec ma fille. Je dois sortir cet après-midi. J'ai rendez-vous à 15h. »
La bonne lui demande
« Avec elle ?»
Elle hausse ses épaules et la quitte.
La bonne se dit « Oh, la pauvre madame !» Elle va voir sa fille.
Elle le dit à tout le monde, même
aux commerçants du quartier.
Ça va finir mal tout ça.
Le chauffeur dit, madame devrait faire attention. La dernière fois, sa fille a failli la tuer. Ils n'étaient pas venus à temps. Pauvre madame.
Durant le déjeuner qu'elle prend à la salle à manger, la bonne lui dit
« Madame devrait aller accompagner. »
Elle lui dit
« mais non, pourquoi ?»«
On ne sait jamais, madame. » »«
Vous êtes folle, c'est pas la première fois que je sors seule,
non ?»« Oui, madame. »
À 14h30, elle sort de chez elle.
Le chauffeur lui demande « Madame, ne veut pas que je l'amène ?»
Elle lui dit
« Mais non, mon ami, vous avez affaire. Il faut aider à faire la gentrie. Allez, je prends un taxi. »
Et elle le quitte. Entre dans le taxi, donne l'adresse.
Elle se dit que son notaire est fou de lui donner un rendez-vous dans un endroit qu'elle ne connaît pas. Le taxi s'arrête dans une rue. Elle sort du taxi. Elle dit encore,
il est fou de donner rendez-vous ici.
Regarde l'immeuble.
Il n'y a même pas de plaque de notaire. Et qu'est-ce que c'est que cet immeuble?
Elle entre dans l'allée. Une allée très quelconque.
Il n'y a pas de nom, c'est les boîtes aux lettres. Pas de nom du notaire. Où se trouve ce satané ascenseur? Dans ce genre d'immeuble, on ne sait jamais où ils sont.
Elle fait le tour de l'allée du hall d'entrée.
Il n'y a pas d'ascenseur. Ça, c'est le comble, alors. Me faire monter 4 étages, sans ascenseur. Me prend pour qui, celui-là? Peut-être qu'il veut ma mort, comme ma fille. Ça ne m'étonnerait pas. Je suis lorsque je vais raconter ça. Mais malheur, à mon amie, Madame Carrier, je vais lui dire comment mon notaire me traite. Elle qui se plaint des HLM et de Michel Mercier, elle verra que ce n'est rien à côté de moi, de mon notaire et de ma fille. Mon Dieu! Allons-y, montons, puisqu'il faut monter. Mais il va me le payer, celui-là. Quand je pense que je le paye pour qu'il me donne rendez-vous dans un endroit pareil, si je lui faisais un procès. C'est ce que ferait mon amie. Elle a fait plusieurs fois au sujet du concierge qui faisait mal son travail et avait des idées politiques louches. Enfin, elle arrive à l'étage furieuse, mais pas trop essoufflée, parce que les femmes, comme elle, sont plus fortes que les autres. La méchanceté, la hargne, conserve et garde
en forme. Il n'y a qu'une porte à l'étage et c'est le dernier. Elle sonne furieuse à la porte de l'appartement. La porte s'est ouverte et apparaît François. Elle est furieuse. Vous ? Lui dit, entrez. Elle entre. Il ferme la porte. Elle lui dit, mais mon notaire me le payera. Il lui dit, veuillez me suivre. Elle le suit. Elle le suit. Où est-il ? Il ouvre une porte, c'est un salon anglais. Elle demande, où est-il ? Il lui dit, il n'est pas là. C'est moi qui vous ai donné rendez-vous. Elle lui fait, vous ? Pourquoi ? Il lui dit, parce que j'avais besoin de vous voir. Et pourquoi ? Parce que je suis, disons, ennuyé. Et il fait, c'est bien fait pour vous. J'y suis pour rien. Mais je me demande rien, moi. Ce sont les autres qui viennent à moi et me veulent. Elle lui fait, j'y suis pour rien. Il lui dit, oui, mais c'est de votre faute si je suis pris. Je ne peux me défaire de votre fille. Si vous vous étiez pas disputé bêtement avec elle, je serais libre maintenant. Elle s'accroche à moi. Elle lui dit, c'est bien fait pour vous. Vous l'aviez cherchée, non. Vous n'aviez qu'à la laisser. Et vous partez comme ça. Il lui dit, oui, bien sûr, mais je veux m'en aller d'une façon plus officielle, disons. Vous verrez. Elle lui dit, je ne verrai rien du tout. Vous vous débrouillerez avec ma fille, qui est folle. Il lui dit, j'avais raison de dire que vous ne verrez rien du tout. Elle lui dit, je n'ai plus rien à vous dire. Je m'en vais. Il lui fait, je vais vous montrer quelque chose. Elle lui demande, quoi ? On est où ici ? Dans l'appartement de votre fille. Il n'y a rien à faire ici. Il lui dit, si malheureusement, il s'approche d'elle, sort ses mains de sa poche, il a des gants en cuir noir. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous voulez ? D'un geste brusque, il a fait tomber à la renverse. Oh ! Qu'est-ce que vous voulez ? Tombe de tout son poids sur elle. Elle s'essaye de se dégager de l'emprise de ce corps, de ses mains, de ses pieds. Il lui dit, risquez pas, calme. Vous ne pouvez rien faire. Mais tout de même pas me violer. Et lui dit, et vous ferez bientôt plaisir. Non. Ce sera mieux. Au secours ! Au secours ! Je vais vous tuer. Eh ! Il lui serre le cou. Elle essaye de se débattre. Mais la jeunesse de bébé. Et puis, il serre. Il serre. Elle étouffe. Il sent ses gestes sont de moins en moins forts. Elle étouffe, voix rouge, blanc, noir. Un dernier râle, c'est fini. Il serre un bon coup
comme pour les poulets.
Il se relève, essoufflé tout de même.
Elle ne bouge pas.
Il se dit, voilà, la chose est faite.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.